Qui vous a prévenu de la découverte de la Minerve? Quelle a été votre réaction?
Dans un premier temps, ça a été une forme de soulagement. Et puis ensuite, en contre-temps, ça m'a fait un choc profond. C'est un peu comme si on venait juste de m'annoncer la disparition de mon père. Cette douleur, c'était pas seulement la mienne, mais c'était celle de tous ceux qui apprenaient les uns après les autres qu'on avait retrouvé la Minerve.
La Minerve est un sous-marin français disparu au large de Toulon le 27 janvier 1968. Ce jour-là, la météo est dantesque. La mer est démontée par les 50 nœuds de vent qui soufflent. Le navire à propulsion diesel est en exercice, finalement annulé au regard des conditions climatiques. L'avion de surveillance qui assure la communication rentre, mais pas la Minerve et ses 52 membres d'équipage, majoritairement de très jeunes hommes. Pendant un demi-siècle, le sort de la Minerve n'intéressera personne, sauf, évidemment, les familles des disparus. Terrible sentiment d'abandon des femmes, des mères, des fils, des frères de ces marins, seuls devant le mutisme de l'armée.
Ce silence, la marine qui était, et l'État qui était complet pendant 50 ans, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu un courrier, on n'a pas eu rien, enfin, c'était ils sont morts et alors. Chez les marines américains, il y a un truc où on ne laisse jamais un corps derrière. Là, visiblement, ce n'était pas le sujet.
Jusqu'au 5 février 2019 et la déclaration de la ministre des Armées, Florence Parly, elle annonce la reprise des recherches. Une armada technologique, scientifique, humaine est déployée, une coopération principalement militaire, mais avec un appui civil, est mise en place pour retrouver l'épave, chose faite le 21 juillet dernier.
J'étais en train de marcher le long de la plage et c'est un cousin du Nord à moi qui me l'a appris. Il m'a dit « on a retrouvé la Minerve ». Je suis resté figé.
La Minerve repose à 2370 mètres de profondeur. Le sous-marin ne sera pas renfloué, devenant un sanctuaire maritime, un cimetière pour les familles des sous-mariniers. Elles devront se contenter de cette découverte, à défaut d'avoir toutes les réponses à leurs nombreuses questions.
Assiette-moi 5. Peut-on assécher la caisse des purges ?
Assécher la caisse des purges.
Les mystères de la Minerve, c'est un reportage de Nathalie Hernandez et Marcos Darras à la prise de son.
France Inter. Interception. Le magazine de reportage de la rédaction.
22 juillet 2019.
S'il vous plaît, on va faire les radios là, les télévisions, vous restez juste là. Et je vous demande un peu de calme.
Conférence de presse du préfet maritime, l'amiral Charles-Henri Duché. Je
permets d'identifier véritablement la
Minerve. En fait, dans les morceaux de sous-marins qui ont été retrouvés donc plus au sud, que là où on avait cherché auparavant dans les années 68. En fait, il y a deux gros morceaux et des pièces un peu éparses. Et dans les gros morceaux, on voit un morceau du massif, du kiosque. Et sur ce morceau, on voit les lettres en rouge, M-I-N-E, et en dessous le S. Le S qui était le début de son numéro de coque. Il n'y a pas d'autres sous-marins type Daphné qui commençaient par M-I-N-E, donc on est vraiment certain qu'il s'agit de la Minerve.
Et c'est incroyable, la couleur est complètement conservée.
La couleur a été conservée, oui, c'est un miracle qui nous a aidés.
Qu'est-ce que vous ressentez, vous avez ressenti, vous dites, directeur des opérations, quand vous avez vu ces images hier soir à 19h?
Beaucoup d'émotions d'abord. Le sentiment d'avoir finalement tenu ma parole, qui était d'essayer de trouver le plus vite possible. Ça fait 8 mois qu'on a essayé de réfléchir au meilleur endroit où chercher. On a réussi à trouver, et ce qui est pour moi essentiel pour les familles, de ne pas les faire attendre et surtout d'éviter que les doutes s'installent, etc. Et donc, une satisfaction et beaucoup d'émotion.
Merci,
amiral. Lundi, j'étais groggy, j'étais assommée. Moi, j'y croyais fermement, mais c'est vrai qu'on l'attendait depuis tellement longtemps que, ouf, ça. Même si ça fait 50 ans, c'est un second deuil. Et moi, il ne s'éteindra qu'après la commémoration, pas avant. Mon fils arrive à pleurer. Moi, je n'y arrive pas.
Martine Coustal, veuve d'un des sous-mariniers de la Minerve. Bouleversée par cette découverte inespérée après un demi-siècle d'attente et quelques mois seulement de recherche.
Le dimanche, nous avons plongé sur 3 points d'intérêt qui avaient été déterminés via les plongées drones sous-marins qui avaient été réalisées avant.
Des recherches auxquelles a participé Julien Simon du service hydrographique et océanographique de la marine.
Donc il y a eu trois plongées. Une première plongée sur un sous-marin entier posé sur le fond. Une deuxième plongée sur une épave qui s'est avérée une épave en bois avec des composants métalliques. Et une troisième plongée sur deux morceaux écartés de 300 mètres et un champ de débris au milieu. Donc qui faisait vraiment penser à une épave qui aurait explosé en surface ou dans la colonne d'eau et qui serait venue se poser sur le fond après par la suite. Ce sont des plongées qui sont très compliquées, donc qui demandent une grande concentration de la part des pilotes. Il y a très peu de mots qui sont échangés. Les deux pilotes communiquent vraiment de manière très efficace. On descend sur le fond et donc on avance à 1 mètre par seconde, donc très lentement, dans le noir, que ce soit dans la pièce ou à la vidéo, puisque par 2300 mètres de fond, il n'y a plus de lumière. Et on voit se dessiner sur le fond, petit à petit, l'avant d'un sous-marin. Vu la morphologie de l'avant, le dôme sonar, la façon dont il est installé, sa composition, puisqu'il est légèrement abîmé, donc ça correspond exactement à ce qu'on recherche. Donc là, on se dit, là, on a affaire à un sous-marin de type Daphné. On en a perdu deux, le Ridis n'est pas là, et la deuxième, c'est la Minerve. Donc même si formellement, on ne l'a pas identifié, déjà, un grand soulagement. Et émotionnellement, c'est très intense. Et en plus, avec l'ambiance feutrée qu'il y a dans la pièce, c'est vraiment très, très particulier. On a l'impression d'être dans le ROV, on a l'impression de piloter le ROV.
Le ROV est un véhicule sous-marin téléguidé.
Quand on est derrière le pilote, face aux écrans, il y a des écrans qui sont gigantesques, avec la caméra à 180 degrés, c'est très particulier, quoi. Et après, on a continué à progresser dans le champ de débris. Et on est arrivé sur une partie un peu plus fuselée, relativement propre. On voit se dessiner des inscriptions en rouge sur fond noir. Et là, on voit le M, le I, le N qui apparaissent au fur et à mesure qu'on se rapproche du débris.
En direct du sous-marin, la Minerve est parée à plonger au poste de combat. À bord de la Minerve, 50 hommes vivent. Deux tiers de l'équipage travaillent, un tiers se repose. En toute occasion, il règne un ordre, un calme qui surprend. La caméra s'approche maintenant vers moi, je me trouve dans le central opération. C'est ici que se tient le commandant du sous-marin. C'est le plus vieux à bord, il a 33 ans. Qui sont les sous-mariniers, commandant ?
Les sous-mariniers, ce sont des gens volontaires, engagés et dont la qualité primordiale, à mon avis, est l'enthousiasme.
Commandant, tout à l'heure, nous étions prêts à plonger. Je crois que nous pourrions maintenant plonger, si vous le voulez bien, si nous le pouvons.
Très bien.
Alerte ! Vous avez entendu le bruit tout à l'heure, c'était l'eau qui rentrait dans les ballasts. Une inclinaison se fait sentir et nous disparaissons. Il faudra 20 secondes au sous-marin pour disparaître totalement.
Moi, je suis Christophe Agnus, je suis le fils du lieutenant de vaisseau Agnus qui était l'officier propulsion de la Minerve.
Vous étiez un tout petit garçon quand votre papa a disparu. Quel souvenir vous en avez ?
Alors, de la disparition même, j'en ai très peu. Mon frère, qui avait un an de plus, a bien meilleur souvenir que moi de ce jour-là. J'avais 4 ans et demi. Et je pense que j'ai zappé cette journée. Et ce que m'a raconté ma tante, c'est que j'étais scotché à la porte et que je ne voulais pas en bouger. Comme si je l'attendais, que je ne voulais pas partir au cas où il rentre. La disparition de mon père est revenue, je dirais, plus vivace quand j'avais 6 ans, 5-6 ans. Pour un détail d'enfant, je devais être en CP, donc j'avais 6 ans. Et je me suis rendu compte que tous les amis avaient deux signatures sur leur carnet, moi j'en avais qu'une. On savait que papa avait disparu avec son sous-marin. Voilà. Pendant longtemps, c'était juste ça, on était petits. Et puis les questions sont plus précises, bien sûr, en grandissant. C'est il a disparu, mais ça veut dire quoi, a disparu ? Ben, disparu, c'est qu'on ne sait pas où il est. Et puis on discute avec sa grand-mère, et sa grand-mère vous dit, oui, mais il a disparu, mais si ça se trouve, il n'est pas mort. Si ça se trouve, il a juste été enlevé. Ma grand-mère s'accrochait à tout. C'est même par un moment... À l'entendre, on se dit peut-être que même ce sont des extraterrestres qui l'ont enlevé, ou des Russes. Et à tel point, d'ailleurs, que quand le rideau est tombé en 89-90, le rideau avec les pays de l'Est, ma grand-mère s'attendait à peut-être avoir son fils revenir. L'absence de corps était très difficile à accepter. Voilà. Ce mot disparu était très, très compliqué.
Vous en voulez aux autorités ?
Aux autorités, sur les 50 dernières années, oui. Oui, parce que on ne peut pas laisser... autant de gens, on est quand même 270. C'est 52 familles et qui ont eu un silence. C'est des parents qui sont morts sans rien savoir. Même s'ils avaient repris, allez, une fois tous les 10 ans, Allez, on refait une campagne de recherche pour essayer de le retrouver. Ça aurait maintenu l'espoir qu'on le retrouve. Et que surtout, qu'ils comptaient. Qu'ils avaient compté. C'est-à-dire que ce silence, la marine qui était, et l'État qui était complet pendant 50 ans. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu un courrier, on n'a pas eu rien. Enfin, c'était ils sont morts et alors. Voilà. Vous savez, chez les marines américains, il y a un truc où on ne laisse jamais un corps derrière. Là, visiblement, ce n'était pas le sujet.
Il y a maintenant plus de 24 heures que la Minerve a disparu. À bord, 52 hommes, 6 officiers, 46 hommes d'équipage. Depuis hier soir, un immense dispositif de recherche a été mis en place. En fin d'après-midi aujourd'hui, des taches de mazout ont été repérées au large de Toulon, à l'endroit approximatif de la disparition du sous-marin Minerve.
Je m'appelle Marie Agnus, j'ai 18 ans et je suis donc la petite fille de Jean Agnus.
Quel lien vous avez construit par rapport à votre grand-père disparu ?
Un lien assez particulier parce que j'en ai fait une sorte d'ami imaginaire. Le soir, je discutais avec lui depuis déjà un ou deux ans. Le soir, je le voyais, j'étais dans mon lit et je le voyais debout et je lui racontais tous mes tracas d'enfant de primaire, etc. Et il souriait, il hochait la tête et il m'écoutait.
Vous en parlez à vos parents de cet ami imaginaire comment...
Non, je voulais surtout pas qu'il le sache. Parce que j'avais la sensation, en fait, que quand il montait, par exemple, l'étage, j'entendais bien parce que les marches craquelaient. Je faisais à mon grand-père, chut, dis rien, attends, ils arrivent. Et je voulais surtout pas, parce que j'avais la sensation qu'en fait, s'ils étaient au courant que je discutais avec lui, il allait disparaître. Donc je faisais toujours, je discutais toute seule, ou ce genre de choses, et je le gardais secret, c'était pour moi. Et au moment où mon arrière-grand-mère est décédée, donc sa mère, j'ai réalisé réellement que mon grand-père était mort.
À quel moment, alors, vous en avez parlé à votre papa ou à votre mère ?
Je pense au moment d'écrire la lettre, à peu près.
Je l'ai découvert dans la lettre.
C'est récent,
ma mère aussi. Oui, c'était il y a quelques mois.
Cette lettre, vous l'écrivez à la ministre ?
Oui, c'est ça.
À Florence Parly.
Je savais qu'il se démenait depuis un nombre d'années assez effrayant pour qu'on retrouve le sous-marin. Et un jour, je suis juste allée le voir, je lui ai dit, comment je peux aider ? Et il m'a dit, écoute, tu sais quoi ? Écris une lettre. Parce que toi, ça t'a touché. Depuis que t'es petite, tu fais des recherches. Tu dis rien, mais tu fais des recherches, c'est important pour toi. Donc montre-le, montre que c'est pas seulement une génération ou deux qui ont été touchées. C'est que ça continue. C'est que c'est un héritage, une disparition qui... C'est un deuil. Moi aussi, au final, je suis en train de faire le deuil alors que je l'ai pas connu. Donc j'ai écrit la lettre et je saurai jamais si ça a fonctionné, si ça... Je sais pas, mais...
Vous n'avez pas eu de réponse ?
Non, aucune. Non.
Est-ce que vous nous liriez un petit le début de votre lettre ? Vous accepteriez de faire ça ?
Bien sûr. Madame la ministre, je me permets aujourd'hui de vous écrire pour vous raconter l'histoire d'une petite fille. Elle a 8 ans, des boucles brunes tout autour du visage et des grands yeux verts ouverts sur le monde. Un jour, en se baladant avec son papa, cette petite fille a découvert qu'un vieux monsieur, habitant à quelques dizaines de mètres de chez elle, connaissait son grand-père. Son père part immédiatement chez lui pour en parler. Dans le salon, il avait les yeux rouges, comme lorsqu'il allumait un feu. Au bout d'un moment, après avoir parlé à voix basse de longues minutes, le monsieur a regardé la petite fille et lui a proposé d'aller en haut voir un gros carton avec plein de journaux qu'elle avait du mal à lire et des photos en noir et blanc. Pendant que les adultes parlaient, elle a fait un petit tas de photos et de quelques morceaux de journaux qui lui paraissaient importants parce qu'il y avait plein de mots. Mais surtout, parmi tous ces mots, le nom de son grand-père.
Nous allons rencontrer Hervé Fauve, le fils du commandant de la Minerve. Depuis plusieurs années, Hervé Fauve n'a pas ménagé son temps et sa peine pour que les recherches reprennent.
Bien, j'ai essayé d'abord de mobiliser les familles autour de ce projet, puisque 51 ans après la disparition du sous-marin, plus personne n'espérait quoi que ce soit de la part de la marine ou d'ailleurs de qui que ce soit pour une éventuelle reprise des recherches. Et puis une fois que j'ai eu le soutien d'un certain nombre de familles, j'ai contacté le journal Var Matin pour lui demander s'il était à même de nous soutenir dans notre démarche. On a fait un manifeste qui est sorti dans le journal, qui a été entendu par les politiques auxquelles nous nous adressions, qui ont fait suivre notre demande auprès de la ministre. Et puis, dans le même temps, j'ai essayé de mobiliser les familles un peu partout en France. Je les ai recherchées une par une. Je me suis fait aider par un certain nombre de familles qui se sont aussi mobilisées. On est parti de 13 familles. On est monté à 18, 25, 30. Quand on a retrouvé la Minerve, j'étais en contact avec 41 familles. Et maintenant, on a des contacts avec 50 des 52 familles.
Vous êtes aussi mobilisé puisque vous avez créé un site pour archiver un maximum de données sur la Minerve.
Alors, au tout départ, lorsque j'ai créé ce site, je n'imaginais pas qu'il allait conduire jusqu'à la découverte de la Minerve. Mon ambition, c'était surtout de rétablir une forme de vérité autour de ce qui s'était passé, puisque depuis une vingtaine d'années, la Minerve n'était qu'un simple sujet de polémique pour savoir si le secret défense était motivé ou pas motivé par des questions d'intérêts commerciaux autour de la vente de sous-marins par la France des années 60. Alors que pour moi, la vraie question, c'était pourquoi est-ce que on n'a pas retrouvé la Minerve? J'ai eu une fois au téléphone l'épouse d'un des marins de la Minerve, elle m'a dit, quand je l'ai décroché, c'est la première fois qu'on m'appelle au sujet de la Minerve en 50 ans. Et elle s'est effondrée en larmes quand j'ai commencé à lui parler. Donc effectivement, ce sentiment d'abandon a été ressenti très très fortement par de nombreuses familles, parce que c'est impressionnant le nombre de personnes qui m'ont dit « Merci d'avoir fait ce site, parce que pour la première fois, depuis 1968, on a une information sur la Minerve, parce que finalement, après la cérémonie du 8 février 68, en présence du général de Gaulle, il ne s'est plus rien passé, on n'a plus jamais entendu parler de quoi que ce soit. »
Il y a beaucoup d'émotions ici, et je vois là-bas une femme qui est complètement effondrée, qui pleure et qui est soutenue par deux officiers qui eux-mêmes ont les larmes aux yeux. C'est absolument bouleversant. Le général de Gaulle se prépare maintenant à dire quelques mots.
Les marins sont morts en mer. Ils étaient des volontaires, c'est-à-dire qu'ils avaient d'avance accepter le sacrifice et qu'ils avaient un pacte avec le danger. Au nom de la patrie, je salue leur mémoire. Vive la France !
Interception sur France Inter.
50 ans après le drame, les familles obtiennent la déclassification du dossier. On le disait vide et on le découvre lourd de centaines de pages d'auditions de marins de l'époque. Tous apparaissent abasourdis dans l'incompréhension. Il a fallu toute la technologie de notre époque pour que le monde des sous-mariniers retrouve enfin leurs aînés.
Je suis le capitaine de frégate Thomas Guéry. Je suis affecté à la préfecture maritime, ou plus exactement au centre des opérations maritimes, au bureau sous-marin. L'amiral Duché m'a chargé de réouvrir le dossier Minerve. Il s'agissait d'étudier dans quelle mesure on pouvait restreindre la zone de recherche. Après plusieurs mois, j'ai réussi à restreindre la zone de recherche de plusieurs milliers de nautiques carrés à peu près 300 km², ce qui est à peu près la superficie de l'agglomération parisienne. Voilà. J'ai voulu en fait repartir des faits bruts et je me suis attaché à reprendre complètement l'enquête depuis zéro avec les documents originaux de l'époque. Et donc les indices que j'ai utilisés, en particulier, c'était les indices donc du CEA, le commissariat à l'énergie atomique, qui avait le jour de l'accident enregistré des secousses sismiques. Ensuite, j'ai essayé de m'appuyer sur les différents échanges qu'il y avait eu entre le sous-marin et un avion de patrouille maritime, un Breguet Atlantique. Donc en essayant de retravailler sa trajectoire, les positions relatives du sous-marin et de l'avion. Et puis enfin, la dernière famille d'indices, c'est l'ensemble de tous les indices qu'on a retrouvés à la surface de l'eau dans les jours qui ont suivi l'accident. Des nappes d'hydrocarbures, des taches de gazole, etc. J'essaie de retracer à rebours l'endroit d'où pouvait provenir cette pollution. Et ça notamment avec des moyens de calcul, des moyens de simulation et des moyens d'observation également, dont on ne disposait pas il y a plus de 10 ans.
Combien d'heures de travail pour tout ça? Vous avez eu des calculateurs qui sont venus vous aider?
Oui, alors beaucoup de machines du CEA, du Commissariat à l'énergie atomique, hein, qui ont fait des calculs à plusieurs reprises. En l'occurrence, ce qui a été déterminant pour déterminer la zone finale, ça a été un document que j'ai retrouvé aux archives de Vincennes, donc un enregistrement de station à terre sismique. Vous imaginez, dans une dizaine de cartons d'archives, donc au château de Vincennes, j'ai ouvert, j'ai cherché, j'ai essayé de... Et cette découverte a permis au CEA de rejouer dans des ordinateurs plus performants, d'analyser la forme du signal avec des moyens actuels. Ça nous a permis d'à la fois restreindre, circonscrire. Avant, on avait une zone qui était de dimension quasiment infinie. Donc là, on arrivait à borner la zone et la restreindre. Cette zone, elle était vraiment à l'extérieur de la zone de probabilité. C'est dans une zone qui n'a jamais été observée par des moyens modernes.
Vous l'avez là, ce document ?
Oui, je l'ai là.
Vous nous le montrez ?
Je peux vous montrer. Et donc ça, c'est le document qui a permis au CEA de vraiment d'avoir la zone.
C'est le document qui a tout changé.
Daniel Casanova ici, le sommateur de quoi ?
En mer, la Marine nationale veille à éloigner les curieux du site des recherches, avec la Loire, un bâtiment d'assistance de 70 mètres de long et 16 mètres de large.
Laurent Musso, donc, je suis commandant de ce bâtiment de la Marine nationale, la Loire, et nous sommes actuellement à une vingtaine de nautiques au sud de Toulon, c'est-à-dire une quarantaine de kilomètres. Donc cette zone d'exercice fait partie de notre zone d'activité courante, c'est là que les forces navales toulonnaises s'entraînent. Et c'est ici que nous avons effectivement retrouvé l'épave de la Minerve grâce à ce travail d'équipe qui a déjà été décrit, hein, avec aussi bien le service hydrographique et océanographique de la marine, mais également le commissariat à l'énergie atomique qui a œuvré dans le cadre de l'enquête pour mieux localiser l'épave, l'IFREMER également, qui est venu travailler la semaine dernière avec des drones de l'IFREMER, la marine nationale qui est partie prenante et élément central de cette recherche de notre sous-marin, et ici Ocean Infinity avec le navire Seabed Constructor que nous avons droit devant nous, un navire rouge. C'est un navire hautement spécialisé qui met en œuvre des drones, des robots sous-marins, des drones de surface et des drones sous-marins. Il est d'une taille d'environ 120 mètres, 8000 tonnes, c'est-à-dire à peu près deux fois la Loire en taille. Concrètement aujourd'hui, le Seabed Constructor, depuis trois jours d'ailleurs, depuis la découverte de la Minerve, est en statique au-dessus de la Minerve et collecte un maximum de renseignements et de détails sur l'état de l'épave et la zone qui environne l'épave.
Tandis qu'à terre, la marine repart de zéro pour dessiner une nouvelle carte de recherche plus précise, en mer, les drones et les robots sous-marins multiplient les plongées pour retrouver la Minerve. L'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, a d'abord envoyé son bateau, l'Antea, et son drone, l'Astérix, début juillet. Astérix a ainsi cartographié les reliefs sous-marins et ses anomalies. L'IFREMER doit ensuite passer la main au Seabed Constructor, l'imposant navire rouge et blanc, propriété de la société américaine Ocean Infinity, a été choisi pour ses multiples capacités. C'est lui qui a retrouvé le sous-marin argentin San Juan en novembre 2018, un an après sa disparition. Équipé d'une flotte de drones et de robots, le Seabed Constructor a pu réaliser des centaines de clichés et de vidéos grâce à ses sonars et à ses caméras couleur haute définition.
C'est en récupération d'un drone.
Vous avez donc appris la bonne nouvelle, la localisation de la Minerve. Comment vous avez réagi ? Comment votre équipage a appris cette nouvelle ?
Le dénouement, nous le savions, de toute manière, était tragique. Donc il n'y avait pas de joie particulière à apprendre cela, évidemment, au sein de l'équipage. Mais il y avait une grande satisfaction d'avoir mené à bien cette mission collective, et d'enfin trouver la réponse aux nombreuses questions que les familles se posaient. Nous avions une certaine part de respect pour nos grands anciens, ces grands anciens qui ont coulé ici par 2370 mètres de fond en janvier 1968. Dès le lendemain matin, nous avons organisé une cérémonie entre nous, ce que nous appelons un balai bonnet.
Un balai bonnet, pour expliquer à nos auditeurs qui ne savent pas ce que c'est ?
Nous étions tête couverte et de manière symbolique, nous avons enlevé nos bonnets de marin ou nos casquettes pour nous découvrir et rendre hommage à nos anciens. La disparition de la Minerve en 68 et de l'Eurydice deux ans après ont grandement marqué les esprits toulonnais. Les Provençaux, les marins de la région, leurs familles et les gens qui côtoyaient ces familles ont été grandement marqués. C'était deux drames nationaux, mais profondément ancré dans la conscience provençale. Je peux en témoigner, hein, je suis moi-même petit-fils et fils de marin de la Marine nationale ici, à Toulon. Je suis originaire des environs de Toulon et j'en ai entendu parler depuis ma plus tendre enfance. Ce sont des choses dont les gens parlent encore aujourd'hui. La perte de 2 sous-marins en 2 ans au large des côtes toulonnaises. Donc évidemment, il y a des familles marquées et leur entourage. Et puis les gens qui ont côtoyé les enfants qui avaient perdu un père, etc. Et mon grand-père, je me souviens, me racontait plutôt le traumatisme que cela pouvait occasionner pour les vivants, pour ceux qui étaient restés.
Nous garderons leurs souvenirs.
Jacques Chaban-Delmas.
Lumineuse et claire.
10 mars 1970, cérémonie à la mémoire des marins disparus de l'Eurydice.
Et d'autres après nous, et d'autres encore. Et ainsi, tant que le soleil se lèvera sur la mer.
Nous sommes au musée de la Marine à Toulon. Martine Coustal, vous êtes venue de chez vous, de Narbonne, c'est ça ?
Oui, à côté, Salé-le-Dode.
Vous êtes la veuve d'un des marins qui a disparu dans la Minerve. Quel âge vous aviez quand vous aviez rencontré Marcel Coustal et comment vous vous êtes rencontrés ?
On s'est rencontrés au village, on était des jeunes à l'époque, on était jeunes tous les deux. On s'est fréquentés assez rapidement. Bon, lui avait eu une enfance un peu, il avait perdu sa maman jeune, donc c'était quelqu'un qui avait envie de fonder une famille assez rapidement. Bon, même si le bébé est arrivé certainement plus tôt que prévu, mais on s'est fréquenté en 66, donc ça faisait 2 ans qu'on était fiancés, entre guillemets.
Voilà. Vous aviez quel âge ?
Moi, j'avais 16 ans et demi quand on s'est connus, 15 ans et demi même, et j'en avais 17 et demi quand le drame est survenu.
Est-ce que vous étiez inquiète de ce métier de sous-marinier ?
Non, non, pas du tout. J'avais confiance et en lui, et en la marine. Et puis, je pense que quand on est jeune, qu'on est amoureux, on ne se pose pas ces questions-là. C'était quand même une profession, entre guillemets, assez valorisante. Bon, quand il venait, dans sa tenue de marin, bon, c'était quand même un beau jeune homme qui arrivait, voilà. C'était plutôt une fierté.
Quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit ?
Je pense que c'était à la période des fêtes. Oui, d'ailleurs, il m'avait ramené les alliances, puisque c'est lui qui les avait achetées. Voilà, on avait préparé le futur mariage et on avait choisi la date du 2 février, parce que c'était la fête du village, entre guillemets, et que lui savait qu'il revenait de mission la semaine d'avant, ce qui s'est malheureusement pas réalisé.
Vous êtes très jeune à ce moment-là. Qui vous apprend la disparition de la Minerve ?
Je ne l'ai pas su le premier jour, parce que mon beau-père est venu, je vivais chez mes parents, et le samedi matin, je vois arriver mon beau-père. Alors moi, toute contente, je lui dis, pour la semaine prochaine, on me faisait une fête familiale très simple. Hein, et je commence à lui raconter ce qu'on va faire comme cuisine, ce qu'on m'a préparé. Et je le vois pas très content. J'ai dit, tu as dû dire quelque chose qui lui a pas plu. Et il est parti. Il n'a pas osé me l'annoncer. Il n'a pas osé me le dire. Et il est revenu le lendemain. Et là, il est venu accompagner avec des sous-mariniers à la retraite qui s'occupaient d'associations. Et c'est eux qui m'ont encadré, voilà, pour m'annoncer la nouvelle. Au début, c'est vrai que c'est difficile. Bon, après, moi, j'avais un bébé bien en place dans le ventre puisque j'allais accoucher au mois de mars. Alors, c'est vrai qu'il a fallu tenir le choc. J'étais ailleurs quand même, je planais, voilà, je me disais c'est pas possible. Après, vu les bruits qui couraient, je me disais, bon, ils disent qu'ils l'ont pas trouvé, mais il y en a qui disaient que peut-être on avait capturé le sous-marin. Donc l'espoir a perduré quand même quelque temps. Et ce n'est qu'à l'accouchement de mon fils, qui a été d'ailleurs assez difficile aussi à gérer. Moi, je cherchais toujours le père, je disais je veux son père évidemment. Et c'est là que j'ai réalisé que vraiment c'était, il reviendrait plus.
À quel moment vous avez demandé à porter le nom de votre mari, votre futur mari ?
Alors, moi, je n'aurais pas osé. Ce sont justement les sous-mariniers, bon, les maires des villages. Je sais que tout le monde s'y est mis. Comme les bans étaient publiés, on devait se marier la semaine d'après. Ce n'était pas dans un mois. Donc, tout le monde a dit, et les sous-mariniers en premier, ce petit, il faut absolument qu'il ait le nom de son père. Donc, on a écrit au procureur. Le procureur de Narbonne s'y est mis aussi. Tout le monde s'y est mis pour... Et au bout de 6 mois, en juillet, le président de la République, qui était le général de Gaulle, a donné l'autorisation du mariage à titre posthume. Et après, puisque mon fils est né sous mon nom, et après, on a pu l'appeler Coustal. Que ce soit un Coustal.
Il fait quoi votre fils? Il est dans la marine?
Non. Il est cuisinier dans un CAT, surtout pas. Par contre, je suis contre les tatouages, mais pour ses 50 ans, il m'a dit « Maman, regarde, il avait un beau tatouage. » Alors, et c'était le sous-marin Minerve. Pour toujours.
Je m'appelle Gérard Rampin, j'ai 71 ans, nous sommes en Daï, sur la côte basque, et je suis originaire du Nord, je suis arrivé ici à l'âge de 15 ans.
Vous et votre frère, vous faisiez votre service militaire en 1968,
non.
C'est ça?
Non, mon frère s'était engagé dans la marine à l'âge de 15 ans, tandis que moi je faisais mon service de 16 mois.
Quel âge avait votre frère? C'est Pierre, hein, son prénom?
C'est Pierre, il allait faire 18 ans le 11 février, et ils ont coulé le 27 janvier.
Et comment ça se fait que vous vous retrouviez à faire votre service militaire à Toulon, vous?
Eh bien, justement, parce que moi, j'ai fait mes classes 3 semaines à Brest. Ils se sont rendus compte que j'avais une bonne oreille. Et oui, parce que je joue du synthétiseur. Donc, ils m'ont dit, hop, vous partez à Toulon, enfin, à côté de Toulon, la Lande des Morts, pour faire l'école des radios.
Qu'est-ce qu'on voit sur cette photo?
Mais moi, en marin, quand j'étais à l'école, c'est marqué école des radios. Et à la fin de l'école, il y a des affectations. Et j'ai vu base sous-marine Toulon. Donc, bien sûr, qu'est-ce que je fais? Je rejoins mon frère le 15 décembre 67. Et 5 semaines après, ben adieu.
Comment ça se passe ce jour-là, justement? Vous êtes de service?
Non, je n'étais pas de service radio ce jour-là. J'étais donc parti au cinéma à Toulon. Et en rentrant 11h du soir à la base, j'ai vu que le box de la Minerve était vide. Je dis, tiens. C'est étrange, mais bon, je ne me suis pas inquiété plus que ça. Et à 2h du matin, c'est là qu'ils m'ont réveillé, un officier en disant « Vous êtes le seul radio présent à la base. On sait que vous avez un cousin à bord. » J'ai dit « Pas tout à fait, c'est mon frère. Est-ce que vous pouvez prendre la veille radio ?» J'ai dit « Oui, bien sûr, je vais y aller. » Donc, à 2h15, et c'est là que l'alerte générale était donnée, je me suis présenté en PC radio, et puis ils m'ont laissé tout seul jusqu'à 8h du matin. Alors j'ai appelé la Minerve, mais on peut toujours appeler.
Comment vous expliquez qu'on ait mis 51 ans à faire à nouveau des recherches? Enfin, un peu moins de 50 ans à faire à nouveau des recherches.
La marine ne voulait... Non, pour eux, c'était affaire classée. Il n'était pas question de chercher la Minerve. C'est sous la pression des familles. Sinon, on en serait encore au point mort.
Vous attendiez à ce qu'on reprenne des recherches ou pas du tout?
Non, même pas. Ça, si vous voulez, j'ai un peu laissé tomber. Je n'ai même pas suivi l'affaire. Enfin, c'est pas... Moi, personnellement, je croyais qu'on n'allait pas le retrouver. Parce que je croyais qu'il n'était pas... Là, bon, j'ai eu tort. Bon, mais ça m'a fait un choc quand ils l'ont trouvé, parce que, voilà, mais maintenant on sait.
Qui est-ce qui vous a appris la nouvelle?
Ah oui, alors ça, j'étais en train de marcher le long de la plage, et c'est un cousin du Nord à moi qui me l'a appris. Il m'a dit, on a retrouvé la Minerve. Je suis resté figé. Donc je l'ai appris comme ça, et pendant 2 jours, je suis resté un peu... pour dire. Je sais pas, j'arrivais pas à réaliser.
Vous pensez que la marine aussi a une grosse responsabilité par rapport à tout ça, dans le sens où, à l'époque, on vendait ces sous-marins à l'étranger?
Oui, justement, ils ont dit non, mais c'est la faute, enfin, pas de l'équipage, mais presque trop jeune, parce que ça a été dit aussi. Ils ont dit non, mais le sous-marin est très fiable, justement, on vendait des sous-marins. Alors ça, c'est facile à dire, hein.
Vous avez décidé de ne pas aller à Toulon à la cérémonie?
Non. Ben pour 2 raisons. Ben, je vous dis, ben parce que moi, je ne peux pas... Bon, la Méditerranée, ça y est, c'est bon, j'ai donné. Et puis non, j'ai peur de ne pas rester calme, on va dire.
Vous êtes encore très en colère, très ému. Hein.
Oui. Oui, parce que... Non, parce qu'ils ont laissé tomber, et puis on ne saura jamais la vérité. Ça, j'en suis sûr. Hein. La preuve, il a explosé, non pas implosé. Bon, alors, c'est bon. Pourquoi il y a un secret défense là-dessus? Puis il n'y a rien à dire. Pourquoi ils ont fait ça? Il fallait dire, elle est disparue, parce que les archives me font marrer, moi, les archives. Enfin, le peu qu'on a réussi à voir, moi, je n'y étais pas, monsieur Fauvietté, c'est simplement l'avis de décès aux familles, tout ça. Ils disent rien de plus, ils diront pas. Non, mais c'est normal, hein, c'est la grande muette. Non, ils n'ont pas été très sympas, non. On peut dire ça comme ça, en étant gentils.
entrez, je vous en prie. Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes à Toulon, nous allons rencontrer Jean-Marc Pellabon, qui est un ancien sous-marinier.
Bienvenue chez moi.
Avec lequel nous allons regarder les images de recherche de la Minerve.
Donc moi, je suis rentré dans la marine à 15 ans et demi. Et de suite, j'ai été attiré par les sous-marins. Donc j'ai fait toute ma carrière au sous-marin. Donc j'ai commencé comme matelot et j'ai fini comme premier maître. Et j'ai navigué sur la Vénus, qui était le même type de sous-marin que la Minerve, qui était un type d'apnée. Et j'ai fini comme instructeur sous-marinier avant de partir faire une nouvelle carrière dans le civil.
Alors aujourd'hui, on a des gros moyens technologiques, ces moyens qui ont permis de retrouver la Minerve. On va regarder ensemble, parce que Hervé Fauve, le fils du commandant du sous-marin Minerve, a mis en ligne une dizaine d'images. Vous allez nous décrire un petit peu ce qu'on voit, et ensuite vous allez un petit peu nous apporter votre analyse.
Alors déjà, j'ai été très surpris par la qualité des images, parce que c'est vrai qu'à 2300 mètres de fond, quand on parle d'épaves, on s'attend toujours à avoir des épaves avec plein de d'algues, de coraux, et là, les images sont super nettes. Donc on voit qu'il y a plein de débris un petit peu éparpillés. Moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'on voit sur ces trois morceaux que l'extrême avant et l'extrême arrière sont en bon état. Ils sont pas abîmés. Et par contre, on voit que la partie du milieu qu'on voit là, d'ailleurs, est très abîmée, comme s'il y avait eu une explosion violente, parce que tout est déchiré. On se dit que le problème est parti du milieu du sous-marin, pas de l'avant ni de l'arrière, parce que les deux autres extrémités sont en bon état.
Un tel impact, ça peut être qu'une explosion.
Une explosion violente. Ouais. Après, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a une explosion de batterie, si c'est dû à l'hydrogène, ça va être suivi d'autres explosions qui vont suivre dans les centièmes, les millièmes de seconde, parce que vous avez des groupes d'RHP à 250 bars, portés à haute température, c'est des bombes aussi. Donc il va y avoir toute une série d'explosions qui vont suivre dans les instants qui suivent. Il y a un élément important aussi, c'est qu'on n'a pas retrouvé grand-chose en surface. Ça veut dire que tout ce qui aurait pu flotter a peut-être été consumé par une très grande chaleur, et ce qui fait que c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas grand-chose qui est remonté à la surface aussi.
Comme elle est descendue à 2300 mètres de profondeur, ça veut dire que donc l'incident est arrivé assez haut. Avec le poids, c'est descendu tout doucement pour se poser sur le fond, c'est ça?
Ma vision des choses, c'est qu'il y aurait eu une explosion dans la partie centrale du sous-marin, donc pendant qu'il était en plongée, entre 50 et 300 mètres, et que cette explosion a été tellement violente que le bateau s'est cassé en trois et s'est rempli instantanément d'eau. Et ensuite, les trois morceaux ont coulé avec les débris donc, qui étaient autour. C'est ma vision des choses aussi. Elle n'a aucune valeur officielle. Voilà, ça, c'est important de le préciser.
Ce sont des images impressionnantes.
Hein. Ah ouais, c'est émouvant et c'est impressionnant. Ça, c'est sûr et certain.
Est-ce que vous pensez que l'équipage a souffert?
Non. Ils n'ont même pas compris ce qui se passait. Ça a dû être très violent et très brutal.
France Inter. Interception.
Depuis le drame de 1968, la marine française a revu une partie de l'organisation à bord, notamment sur les changements de quart. Autrement dit, l'équipage ne change plus de poste en même temps, comme ce fut le cas. À l'époque, des voix ont même mis en doute la fiabilité de l'équipage, plutôt jeune. Nous retrouvons Hervé Fauve, le fils du commandant du navire. C'est lui qui a mobilisé les familles et a su, avec obstination, faire entendre leur voix.
Qui vous a prévenu de la découverte de la Minerve?
Alors, j'ai été contacté par l'amiral Prazuc le matin. L'amiral Prazuc, c'est le chef d'état-major de la marine, qui m'a appelé 2 heures à peu près avant que la nouvelle ne soit annoncée officiellement, et m'a simplement demandé d'attendre un petit peu avant de prévenir l'ensemble des familles. J'espérais tellement cette nouvelle que dès que j'ai entendu que c'était lui au téléphone, j'ai pas douté une seule seconde de la raison de son appel. Donc dans un premier temps, ça a été une forme de soulagement. Et puis ensuite, en contretemps, ça m'a fait un choc profond. C'est un peu comme si on venait juste de m'annoncer la disparition de mon père. Et j'ai appelé ensuite un certain nombre de familles, en particulier celles qui n'avaient pas de mail.
Et j'ai eu des mères et des épouses au téléphone qui se sont littéralement effondrées en larmes quand je leur ai annoncé qu'on avait retrouvé la Minerve, parce que pour elles, ça voulait dire qu'on avait retrouvé, en quelque sorte, le corps de leur fils ou de leur époux. Cette douleur, c'était pas seulement la mienne, mais c'était celle de tous ceux qui apprenaient les uns après les autres qu'on avait retrouvé la Minerve. C'est quelque chose qui est très, très difficile à vivre.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous mobiliser autant pour la Minerve ? C'était le manque de réponse ?
En fin de compte, à l'âge de 11 ans, j'ai pris connaissance de l'ensemble du dossier Minerve que m'avait donné mon beau-père. Ma mère s'était remariée avec un officier de marine. Et ce dossier se concluait par le fait qu'on ne peut rien dire puisqu'on n'a pas retrouvé l'épave. Et dès l'âge de 11 ans, je me suis dit, il faut retrouver la Minerve. Donc c'est une idée qui ne m'a jamais quittée. Et je me suis toujours dit que on la retrouverait un jour ou l'autre, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais on la retrouverait. Mon seul espoir, c'était qu'on la retrouve de mon vivant. Et c'est quand une opportunité s'est présentée à l'occasion du cinquantenaire de la disparition de la Minerve que je ne l'ai pas laissé passer et je me suis engouffré à toute force à l'intérieur de cette brèche qui me semblait s'ouvrir. Je me suis véritablement précipité et je n'ai pas lâché le morceau.
Combien vous avez d'archives aujourd'hui ?
J'ai plusieurs boîtes remplies d'archives, j'ai des centaines de coupures de journaux, et puis j'ai surtout, du fait de la dématérialisation, je peux dire des milliers de documents relatifs à la Minerve.
Est-ce que vous allez aller avec votre frère à la cérémonie à Toulon ? Il va venir avec vous ?
Il y aura mon frère, ma sœur et tous nos enfants, donc l'ensemble des descendants de mon père sera présent à la cérémonie à Toulon. C'est un peu comme si c'était la cérémonie d'enterrement de mon père. C'est la première fois qu'on se retrouvera tous réunis autour de lui en 51 ans.
Garde à vous, d'abord. Madame Florence Parmi.
Nous sommes sur le Tonnerre, à 45 km au sud de Toulon. Le bateau de la Marine nationale se trouve maintenant à l'aplomb de la Minerve. La ministre des Armées vient d'arriver pour la cérémonie en mer, en hommage aux 52 marins disparus.
Notre pays sait ce qu'il doit aux marins de la Minerve. Et dans le calme des ombres marines, la France, reconnaissante, s'incline. Vive la République, vive la France. Procéder à la dépose des couronnes à la mer.
Martine Coustal et son fils Marcel, ils portent le même prénom que son père disparu.
Je pense que le 22 juillet dernier, j'ai subi un grand choc et surtout un second deuil qu'il a fallu faire. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, je n'étais pas libérée de ce deuil. Et aujourd'hui, même si tout à l'heure la cérémonie a été très prégnante, bon, le plus difficile, ça a été le moment de jeter les fleurs. Parce qu'on savait que là, c'était pour eux. C'est là, je pense, que je me dis, maintenant, on va pouvoir continuer. Pas tourner la page, parce qu'on ne peut pas oublier, mais se dire, maintenant, on peut continuer, parce qu'on a l'esprit. Il me semble qu'un poids est parti de moi, parce que, voilà, on est venu là, et on est venu leur rendre hommage.
Il a quand même fallu abattre beaucoup de portes avant d'en arriver là. Donc moi, je pense que c'est l'amour des familles qui a permis qu'on soit là aujourd'hui. Et ça, c'est le principal.
Tout le personnel disponible est demandé au hangar aviation.
Marcel, vous êtes donc le fils ?
J'ai 51 ans, donc j'ai l'âge de la disparition de ma Minerva. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai réalisé ce qu'était ma vie. Parce qu'on m'a toujours dit, ton père a disparu. Mais où ? On ne savait pas. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment réalisé que mon père était là. Je suis venu aux funérailles de mon père et de ses 50 autres amis et coéquipiers, alors que j'ai 51 ans et que mon père avait 19 ans. Voilà. Et c'est ça qui est un peu chamboulé dans ma tête, quoi. C'est un peu difficile à réaliser.
12 mètres. 12 mètres. 12 mètres. 14 mètres. 16 mètres. 18 mètres. 20 mètres. Pas de bruiteur à l'écoute. Pas de bruiteur à l'écoute. Bien.
Les mystères de la Minerve, c'était un reportage de Nathalie Hernandez avec Marcos Darras à la prise de son. Réalisation Violaine Ballet, assistée de Victoire Faure et Martine Messonnier. Mixage Julien Douminc. Dans un instant, vous retrouvez Eva Bester et son remède à la mélancolie.